Bienvenue à BetaFinch, votre analyse d'appel de résultats générés par l'IA. Je m'appelle Alex et je suis avec Jordan pour décortiquer les résultats financiers de ce trimestre. Aujourd'hui, nous examinons Eli Lilly, qui a livré une performance véritablement impressionnante au deuxième trimestre. Avant de commencer, nous devons vous donner une information importante. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Bon, maintenant que c'est fait, parlons de ce qui se passe chez Eli Lilly. Jordan, quelle est ta première impression en regardant ces résultats ?
Alex, c'est vraiment remarquable. Commençons par les chiffres bruts, une croissance de revenus de 48% d'une année à l'autre. C'est énorme pour une entreprise pharmaceutique de cette taille.
Absolument. Et ce n'est pas juste un produit qui doit faire tout le travail. Regardons la composition de cette croissance. Mounjaro et Zepbound, leurs produits contre l'obésité et le diabète, ont généré à eux seuls 14,9 milliards de dollars au cours du trimestre. C'est presque 6,3 milliards de dollars de croissance supplémentaire par rapport à l'année précédente.
Et c'est intéressant parce que lorsque tu regardes leur portefeuille, l'oncologie, l'immunologie et les neurosciences ont collectivement augmenté de 121%. Donc ce n'est vraiment pas un jeu à un seul produit.
C'est exact. Dave Rick, le PDG, a mentionné que tous les domaines thérapeutiques se portent bien, toutes les régions géographiques se portent bien. C'est le genre de performance équilibrée que les investisseurs adorent voir.
Et je pense que ce qui impressionne vraiment les gens, c'est que malgré cette croissance massive, leur marge brute a augmenté à 86,3%, une augmentation de 1,3 point de pourcentage. Comment font-ils cela ?
C'est une excellente question. Selon Lucas Montars, le directeur financier, c'est principalement dû à une meilleure composition des produits et à l'amélioration de leurs coûts de production. Ils augmentent même leurs investissements en marketing et en R&D, augmentation de 25% et 14% respectivement, et leur marge s'améliore quand même. C'est impressionnant.
Parlons de la guidance. Ils ont relevé leurs prévisions pour l'année complète.
Oui. Ils s'attendent maintenant à des revenus entre 85 et 87 milliards de dollars pour l'année complète. C'est une augmentation de 2,5 milliards de dollars par rapport à leur guidance précédente. Ils s'attendent également à un bénéfice par action non GOP de 35,50 à 36,50 dollars. C'est une augmentation d'environ 2,78 dollars par action au point milieu.
Maintenant, parlons de ce qui excite vraiment le marché, le Foundayo. C'est leur nouvelle version orale du GLP-1. Comment va le lancement ?
Eh bien, c'est en cours. Au début, les choses se sont déroulées un peu lentement, plus lentement que prévu, en fait. Mais regardez ce qui s'est passé, ils ont obtenu l'accès chez tous les trois grands gestionnaires d'avantages pharmaceutiques. Le programme Medicare GLP-1 Bridge a lancé en juillet, offrant une couverture à 20 millions d'Américains admissibles à seulement $50 par mois. Et voici la vraie nouvelle, ils ont commencé à voir une inflexion.
Quel genre de chiffres parlons-nous ?
Eh bien, selon Ilya Yuffa, le président de la division américaine, ils ont doublé le volume au cours de la dernière semaine de juillet par rapport à un mois plus tôt. Ils ont également augmenté le nombre de prescripteurs de 8 000 à 36 000. C'est une croissance massive de la base de prescripteurs. Et environ un nouveau patient sur quatre commençant un traitement par GLP-1 choisit maintenant Foundayo.
Attendez, concernant ce programme Bridge, c'est vraiment un grand accord ici, n'est-ce pas ? C'est du gouvernement fédéral, ce n'est pas seulement du secteur privé.
Exactement. C'est un partenariat entre Eli Lilly et le gouvernement américain. Cela étant l'accès de 35% supplémentaire à l'ensemble de la population américaine pour l'obésité. C'est plus que simplement lancer un produit, c'est étendre l'accès à une population entièrement nouvelle.
Passons à l'international. Comment se déroule Foundayo en dehors des États-Unis ?
Ils sont vraiment enthousiastes à ce sujet. Ils ont lancé aux Émirats Arabes Unis en mai, et ils ont reçu des approbations en Arabie Saoudite et au Mexique. Les signaux précoces montrent que l'oral élargit réellement le marché, ce qui a du sens, car de nombreux patients n'ont jamais eu de traitement par incrétine auparavant. Ils disent que Mounjaro, leur version injectable, continue également à bien se porter, avec 55% de part de marché mondial.
Parlons du portefeuille plus large. Le retatrutide semble être quelque chose d'assez spécial.
Oh, c'est un gros problème. Le retatrutide est un triple agoniste GLP-1, c'est un médicament qui fonctionne sur trois voies différentes dans le corps, contrairement aux médicaments bicibles comme Mounjaro et Foundayo. Ils ont présenté les résultats positifs de trois essais de phase 3 appelés collectivement le programme Triumph.
Quel genre de résultats ?
Nous parlons ici de niveaux de perte de poids proches de la chirurgie bariatrique aux doses les plus élevées. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'ils voient également des améliorations dans des domaines comme la douleur de l'arthrose et l'apnée du sommeil, plus de 75% de réduction de la douleur. C'est du jamais vu. Le plan est de présenter une demande en First Quarter 2027.
Et il y a eu pas mal de questions lors de l'appel sur le statut de la demande BLA versus NDA.
Oui, c'est un point technique important. Eli Lilly veut le classer comme une demande biologique, un BLA, plutôt qu'une demande de nouveaux médicaments standards. Il y a eu un procès à ce sujet, mais Dave Rick a indiqué qu'il travaille avec la FDA à cet égard. Quelle que soit la voie, ils ont dit que lorsque ce médicament arrivera sur le marché, les gens voteront avec leurs pieds.
Parlons un moment du pipeline. Ils ont annoncé quelques acquisitions intéressantes.
Oui, et c'est où les choses deviennent vraiment fascinantes. Ils sont entrés dans les vaccins, ce qui n'a pas été une zone de concentration pour Lilly ces dernières années. Ils ont acquis Curevo pour un vaccin contre la varicelle zona améliorée ou le zona. Limatech Biologique, qui développe des vaccins contre les infections bactériennes. Et The Vaccine Company, qui travaille sur le virus Epstein-Barr.
C'est une stratégie de construction de plateforme.
Exactement. Et ils ont également acheté AT Beckley, une entreprise travaillant sur des traitements rapides pour la dépression résistante au traitement. C'est nouveau pour Eli Lilly. Mais Dan Skovronsky, leur directeur scientifique, a noté qu'il s'agit de domaines avec d'énormes besoins non satisfaits.
Le pipeline en oncologie et en immunologie est également remarquable.
Vraiment. L'immunologie connaît un moment. Leur dernier médicament anti-amylide contre Alzheimer, Kisunla, se développe bien, et les tests diagnostiques, les tests de taux 217, se multiplient. Cela signifie que davantage de personnes reçoivent réellement un diagnostic et accèdent à un traitement. En oncologie, le Gepirca connaît une croissance de 56% d'une année à l'autre. Et ils ont des données vraiment impressionnantes entrant de nouveaux candidats en hématologie et en CAR-T.
Remettons cela en contexte plus large. Voici une entreprise de santé massive en voie de dépasser 85 à 87 milliards de dollars en revenus annuels et elle connaît une croissance généralisée.
C'est juste. Et ce qui donne du poids à ces résultats, c'est que ce n'est pas juste une bulle. Ils étendent l'accès, il y a plus de 40 millions de personnes dans les contextes de ressources limitées qui accèdent aux médicaments de Lilly. Leur usine de nouveaux médicaments génétiques au Liban, en Indiana, vient d'ouvrir. Ils produisent les premiers lots commerciaux en Irlande. Tout cela indique une entreprise qui construit sa capacité pour l'avenir.
Quel est donc ton principal à retenir ici ?
Deux choses, vraiment. Premièrement, Eli Lilly a un portefeuille qui fonctionne réellement à tous les niveaux. Il ne s'agit pas d'une entreprise pharmaceutique qui parie tout sur une catégorie. Et deuxièmement, ils construisent d'énormes barrières à l'entrée physiquement, avec la fabrication, et scientifiquement, avec des pipelines dans de nombreuses zones et des acquisitions qui élargissent leur portée.
Pour les investisseurs, cela semble être une histoire de long terme.
Absolument. Le marché de l'obésité et du diabète est énorme et sous-pénétré. Il y a encore du croissance à venir à partir de Foundayo, Mounjaro et Zepbound. Et si le retatrutide livre sur ces données exceptionnelles, c'est un autre moteur multimilliard. Sans même compter le reste du pipeline.
Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse. Avant de partir, rappelons quelque chose d'important. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable.
Merci d'avoir écouté Beta Finch. Pour plus d'analyses d'appels de résultats générés par IA, rendez-vous sur notre site web. Bonne chance avec vos investissements.